France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, l'un des plus grands hôpitaux de Gaza à nouveau visé.
L'armée israélienne mène une opération autour et dans cet établissement du nord de l'enclave palestinienne. Elle dit avoir éliminé 20 combattants du Hamas ce soir, mais les Nations Unies craignent les conséquences sur l'accès aux soins. Nous sommes en direct avec notre correspondant à Jérusalem dès le début de ce journal.
Les autres titres, Kevin.
Soirée sous tension à la Courneuve en perspective après l'attaque d'un commissariat hier soir. 4 jours après la mort d'un jeune homme de 18 ans dans une collision avec la police, des renforts sont arrivés sur place.
Et on en parle avec le président du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui est l'invité de ce journal.
Nous verrons aussi que le Brésil vit une vague de chaleur assez extraordinaire et on se demandera où en est la Civise, la commission sur l'inceste à l'arrêt depuis plus d'un mois.
Au sommaire du 18-20 ce soir, Kevin, Poutine superstar qui offre une fête à Moscou ce soir pour fêter ses 87% et aussi pour célébrer les 10 ans de l'annexion de la Crimée. Nous allons en Russie retrouver Anne Niva ce soir. Le reportage nous emmène en Irlande où la tradition de la Saint-Patrick, une visite du Premier ministre aux États-Unis est remise en cause par l'Irlande pro-palestinienne. Vous saurez aussi pourquoi les écoles sont fermées au Soudan, pourquoi le Niger vire aussi les Américains et quelle musique on écoute au Sénégal avant les élections. En deuxième heure, à partir de 19h20, c'est le téléphone sonne en ce jour de guide Michelin. Du fast-food jusqu'au restaurant gastronomique, nous sommes un pays de resto. Et vous, racontez-nous vos sorties resto pour aller chercher quoi ? François-Régis Gaudry sera avec nous.
France Inter.
Ces derniers jours, c'est donc le sud de la bande de Gaza qui était particulièrement scruté.
Et pourtant ce soir, c'est bien à nouveau vers le nord que les regards se tournent et où la situation préoccupe les institutions internationales. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé dit ce soir, je cite, terriblement préoccupé par ce qu'il se passe depuis très tôt ce matin à l'hôpital Al-Shifa, l'un des plus grands de l'enclave palestinienne assiégée. L'armée israélienne y mène une nouvelle offensive importante, affirmant viser des cadres du Hamas, le mouvement islamiste qui retient toujours 130 otages. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Kevin, bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter à Jérusalem, Thibault, des témoins parlent de bombardements et de violents combats autour de cet hôpital.
Oui, vous l'avez dit dans les titres, hein, les affrontements continuent dans et autour de cet hôpital. L'armée israélienne annonce avoir tué 20 miliciens du Hamas, dont le chef de la sécurité intérieure de l'organisation islamiste. Elle affirme aussi en avoir arrêté des dizaines d'autres. La chaîne qatarienne Al Jazeera accuse l'État hébreu de détenir un de ses journalistes et elle exige, avec Reporters sans frontières, sa libération immédiate. Ismaël Al-Roul travaillait dans l'enceinte de l'hôpital autour de 2h30 cette nuit quand l'assaut a été lancé. Il était à ce moment-là avec un autre journaliste palestinien, Wadia Abou Soud, qui a envoyé cette vidéo sur son compte Instagram.
C'est peut-être ma dernière vidéo. On est pris au piège à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa. On est visé par des tirs nourris. Les forces d'occupation sont entrées brutalement et soudainement dans l'établissement et ses environs. C'est ce que vous pouvez entendre à l'instant. Il y a des affrontements violents autour de l'hôpital.
Selon un journaliste de l'agence France Presse, lui aussi sur place, plusieurs immeubles du quartier Al-Rimal à proximité ont été visés par des frappes aériennes et des centaines de civils ont été contraints de fuir la zone. En fin de matinée, l'armée israélienne, par la voix d'un de ses porte-parole, a exhorté la population à se réfugier au sud de la ville de Gaza.
Et Thibault, rappelons que ce n'est pas la première fois que l'hôpital Al-Shifa est au cœur des combats depuis le 7 octobre.
Non, c'est le deuxième raid d'envergure contre cet hôpital après celui de novembre dernier. Comme il y a 4 mois, l'armée israélienne affirme, vidéo à l'appui, avoir trouvé des armes et de l'argent. C'est une question essentielle puisqu'en vertu du droit humanitaire international, un hôpital doit être protégé, sauf quand un des deux belligérants l'occupe pour commettre, je cite, des actes qui nuisent à l'ennemi. C'est ce que tente de démontrer l'armée israélienne en assurant que le Hamas utilise les malades et les soignants comme boucliers humains. L'organisation islamiste affirme de son côté que des milliers de personnes étaient réfugiées dans l'hôpital et dénoncent un crime de guerre.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem pour France Inter. Et dans ce contexte, peut-être une maigre lueur d'espoir au Proche-Orient ce soir avec cet appel téléphonique entre Joe Biden, le président américain, et Benjamin Netanyahou. C'est le premier depuis plus d'un mois. Une discussion alors que le Premier ministre israélien a redit sa volonté de mener une attaque à Rafah dans le sud, cette fois où sont entassés plus d'un million de civils. Washington tente de l'en dissuader depuis plusieurs semaines.
Vladimir Poutine célèbre son triomphe.
Le président russe, en ce moment sur la place Rouge, à Moscou. Il célèbre donc sa victoire à la présidentielle, une élection à l'issue courue d'avance, sans opposition. La commission électorale donne le chiffre définitif de 87,28% des suffrages en faveur de Vladimir Poutine ce soir, après le dépouillement de tous les bureaux de vote. On y revient dans Un jour dans le monde, dans un quart d'heure, et dans le journal de 19h. Et pendant ce temps, des Russes meurent à Belgorod. Une frappe ukrainienne a fait au moins 4 victimes civiles aujourd'hui, d'après le gouvernement de cette région frontalière de l'Ukraine. Toujours à l'étranger, l'actualité ce soir, c'est aussi ces températures records au Brésil. Toute l'Amérique latine vit une vague de chaleur depuis le début de l'année, mais à Rio de Janeiro notamment, les compteurs s'affolent depuis ce week-end. C'est l'été au Brésil, mais mi-mars, les maximales tournent en moyenne autour de 30 degrés. Ce week-end, il a fait 42 degrés. Et pire encore, le système d'alerte municipale de Rio annonçait hier plus de 62 degrés ressentis. Bonsoir, c'est Yakiré.
Bonsoir, Kevin.
Ça semble invraisemblable. Comment on explique ce chiffre?
Alors, la température ressentie peut être bien plus élevée ou plus basse d'ailleurs que celle du thermomètre. La température de l'air est mesurée sous abri à 1,5 m du sol. Mais si l'on tient compte du vent, du rayonnement du soleil et de l'humidité, ça peut fortement grimper. 36 degrés au sol avec par exemple 90% d'humidité, ça donne 60 degrés ressentis selon Météo France. Au Brésil en ce moment, c'est justement la forte humidité qui est responsable de cet écart. L'explorateur Christian Clos en a fait l'expérience au Brésil et en Malaisie lors de l'expédition Deep Climate pour expérimenter les extrêmes climatiques.
On a vraiment une sensation d'étouffement. On n'arrive plus à éliminer sa chaleur de l'intérieur du corps parce que l'air est déjà saturé en eau. Et donc on a l'impression de presque être en étouffement puisque le poumon reçoit à la fois de l'air et de l'eau qui est contenue dans l'air. Il doit séparer ça pour pouvoir respirer correctement, ce qui demande énormément d'énergie, donc beaucoup de fatigue. Et il faut donc avant tout protéger les personnes qui sont en fragilité, les enfants, les personnes âgées, les personnes malades. Mais ensuite, on est tous soumis à ces conditions, donc il faut essayer de bouger le moins possible, de ne pas faire des allers-retours entre le chaud et le froid qui créent des chocs thermiques terribles, mais au contraire, de rester le plus longtemps possible dans des conditions d'ombre et de semi-fraîcheur.
Et à l'inverse, la sensation de froid est bien pire avec du vent. Moins 10 au thermomètre avec du vent à 30 km/h, la température ressentie descend à moins 20 degrés, un moins 25 peut même se transformer en moins 40 avec un vent moyen.
Explication signée Célia Kiré, spécialiste environnement de France Inter. Il a fait trop chaud pour la saison en France aussi aujourd'hui. Près de 25 degrés à Montpellier par exemple cet après-midi, soit plus 9 degrés par rapport au normal de saison. La météo complète, c'est à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
La première journée du procès de Salim Berada s'achève à la cour criminelle de Paris.
Oui, c'est l'affaire dite du violeur de Tinder, parce que c'est sur cette application de rencontre que ce photographe de mode abordait ses victimes. Il est accusé de 13 viols et 4 agressions sexuelles. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Vous suivez ce procès où il était question cet après-midi de la personnalité de l'accusé.
Oui, et Salim Berada s'exprime bien, très bien même, quand il s'agit de revenir sur sa naissance au Maroc. À la maison, c'était chaotique, explique-t-il. Alors pour s'émanciper, le jeune homme prend le bateau, puis l'autocar. J'avais 20 euros en poche, s'installe à Bordeaux, intègre une école d'ingénieur, décroche un contrat de cadre en CDI à la sortie. Mais son rêve, c'était la photo. Et même si sur les réseaux sociaux, les photographes, il y en a pléthore, explique-t-il, Salim Berada commence à percer, multiplie les contacts pour des séances photos via des sites de rencontres, tellement qu'il tient un tableau Excel pour s'y retrouver. Je pense avoir le droit de faire ça, même si ça peut choquer moralement, reconnaît l'accusé, par ailleurs inflexible. Vous parlez du prisme de la culpabilité, monsieur le procureur. Moi, je vous parle du prisme de l'innocence. Je sais que je n'ai pas commis ces viols. Interrogé sur ces quelques 600 relations féminines, selon lui, l'accusé insiste, je n'ai pas d'addiction au sexe. Mon addiction, c'est celle de susciter le désir. À ces mots, des jeunes femmes réagissent vivement dans la salle. Salim Berada s'interrompt, puis repart avec conviction, émotion même, quand il déplore son propre sort en détention, où son nom désormais foutu, Sally, sans toutefois évoquer un seul instant les parties civiles qui lui font face.
Compte rendu d'audience signé Charlotte Piret en direct de la cour criminelle départementale de Paris.
Un adolescent de 15 ans tué par balle hier près de Dijon.
Ça s'est passé dans une cité de talent et malgré le très jeune âge de la victime, il s'agirait bien d'une affaire sur fond de trafic de drogue. Bonsoir Morgane Clin-Refait.
Bonsoir.
Cet adolescent a été abattu dans un quartier où il venait en fait tout juste de s'implanter. planté.
Oui, il faisait office de guetteur près d'un point de deal plutôt secondaire. Depuis à peine une semaine, 10 jours selon nos informations, ni les forces de l'ordre, ni les médiateurs de la mairie qui passent quotidiennement ne le connaissaient avant. Seule la justice avait déjà eu affaire à lui pour du trafic de stupéfiants. Ce jeune, il venait d'un quartier prioritaire de Dijon, pas celui de la Fontaine d'Ouche où les tensions se sont accentuées récemment, un mort et un blessé grave rien que la semaine dernière. Toute la question, c'est donc de savoir précisément pourquoi cet adolescent de 15 ans a été visé par des tirs au moins 4 hier soir de la part de plusieurs personnes à bord d'une voiture volée qui a ensuite été retrouvée calcinée à environ 5 km. Trafic de stupéfiants, rivalité entre bandes ou conjonction des deux, s'interroge le procureur de la République de Dijon. C'est ce que l'enquête doit éclaircir. Pour l'heure, les auteurs des coups de feu n'ont pas été identifiés. Un homme au volant d'un véhicule suspect a été brièvement placé en garde à vue hier avant d'être finalement relâché.
Morgane Euclin refait service police-justice de France Inter. Et à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, à quelle nuit faut-il s'attendre? Question que se posent les habitants. Ce soir, les policiers aussi appelés en renfort après l'attaque la nuit dernière du commissariat de la ville à coups de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice. Flambée de violence qui a suivi la mort d'un jeune de la ville mercredi dernier dans une collision avec une voiture de police. Il circulait à scooter. 9 personnes ont été interpellées après l'attaque du commissariat.
Bonsoir Stéphane Troussel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du département de Seine-Saint-Denis. La mairie, le maire a appelé à l'apaisement. Vous avez, vous aussi, appelé à l'apaisement. Ça veut dire que la tension n'est pas retombée et que vous avez peur pour ce soir?
Non,
vous n'êtes pas serein, disons.
C'est tout simplement que les incidents survenus au commissariat de la Courneuve hier soir étaient importants et ne peuvent pas, ils sont inacceptables. La violence, elle n'est bonne pour personne, ni pour ceux qui la commettent, ni pour ceux qui la subissent. Et donc, si la situation hier soir a été assez rapidement maîtrisée, la journée, par ailleurs, aujourd'hui, je crois, a été assez calme, il faut effectivement, ce dont la famille de Wanis a besoin, c'est à la fois de calme et de sérénité, et de vérité et de justice, mais certainement pas d'incidents qui jettent l'opprobre sur la mémoire de ce jeune homme mort dans des circonstances tragiques.
Vous avez rencontré, vous, la famille de Wanis? La mairie, en tout cas, l'a fait. On imagine dans quel état ils étaient. Est-ce que vous les sentez en mesure de demander cet apaisement? Et est-ce qu'au fond, c'est à eux de le faire, en fait, et d'essayer de calmer ce moment?
D'abord, oui, j'ai rencontré, dès le jeudi, j'ai rencontré la famille, ses amis, ses proches, la famille chez elle directement, mais aussi l'ensemble de ses amis et de ses proches et des jeunes, notamment du quartier qui étaient rassemblés dans le très grand calme et une très grande dignité le jeudi soir. Ils sont bien sûr face à une mort aussi tragique, qui suscite un choc profond, on l'imagine bien, pour toute famille, et ils sont effondrés. Mais encore une fois, je sais, pour en avoir parlé avec eux, que bien évidemment, et c'est le cas de ses amis, ils souhaitent l'apaisement. Mais en même temps, bien évidemment, ils ont besoin de la vérité et de la justice. Et donc, à la fois, nous souhaitons ce calme, et j'appelle au calme, et en même temps à la justice, parce qu'il faut que, le plus rapidement possible, toute la lumière sur les circonstances de cette mort tragique soit faite, et que la justice soit établie.
Stéphane Troussel, on a un peu le sentiment qu'on a déjà entendu cette histoire, hélas, en fait, même cause, même effet, même scénario à chaque fois, avec le sentiment que rien ne permet d'éviter, au fond, cet engrenage, et la même crainte ensuite d'un effet boule de neige et de répétition de ces actes de vandalisme liés à la même colère. Est-ce qu'on finit par se demander comment on fait quand on est, vous, le président du département, comment on fait pour arrêter cet engrenage? Enfin, on n'en sortira jamais.
D'abord, c'est mon rôle à la fois comme président de la Seine-Saint-Denis, mais aussi il s'avère que j'habite cette ville depuis ma naissance. J'y vis, j'en suis l'élu. Et donc, je sais aussi que par nos mots, notre responsabilité, on doit les uns et les autres, avec les acteurs locaux, avec les responsables associatifs, avec les habitants eux-mêmes, qui sont à la fois touchés, émus, choqués, mais en même temps qui savent que ni la mémoire de ce jeune homme, ni la ville et ses habitants, ni tout ce qui est entrepris localement n'a besoin d'incidents qui contre le commissariat, contre les femmes et les hommes qui y exercent. Et donc, c'est notre rôle à tous de contribuer à ces paroles et ces actes de responsabilité.
Une dernière chose, Stéphane Troussel, vous êtes département olympique, hein, vous avez le village, vous avez des épreuves. Est-ce que vous vous sentez observé particulièrement dans ces périodes-là, précisément ?
Oui, nous le sommes forcément. Et donc, c'est d'ailleurs aussi un enjeu pour la Courneuve, pour la Seine-Saint-Denis tout entière. La Courneuve aura des épreuves olympiques, la Courneuve a des équipements d'entraînement, la Courneuve a des voiries requalifiées. Et donc, ça doit être un moment important pour la ville et ses habitants, pour à la fois y participer, éprouver de la fierté, mais aussi, au lendemain de ce drame, penser à la mémoire de collectivement, penser à la mémoire de ce jeune homme, à sa famille, et l'entourer de notre solidarité, de notre soutien, de notre compassion, et réclamer avec elle, encore une fois, du calme, de la sérénité, de la vérité et de la justice.
Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis, avec nous dans le journal. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi cette réaction d'Aurore Berger. « Nous ne laisserons jamais rien passer », écrit la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, 3 jours après une agression homophobe dans un bar du 10e arrondissement de Paris. Un verre et une bouteille jetés par un homme au visage de la victime, le tout accompagné d'insultes homophobes. La scène a été filmée, partagée sur les réseaux sociaux. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour violence en réunion en raison de l'orientation sexuelle avec arme.
Camille Kouchner interpelle à nouveau le gouvernement.
Son livre La Familia Grande, où elle raconte l'effet d'inceste subi par son frère, avait entraîné de nombreux témoignages sur le sujet. Mais dans une tribune publiée aujourd'hui, l'autrice estime que l'État, je cite, « fait peu de cas des violences sexuelles dont sont victimes les enfants ». Et elle regrette que la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, soit de fait à l'arrêt puisqu'elle n'a plus personne à sa tête. Le président a démissionné il y a plus d'un mois après que l'on a appris que sa vice-présidente était elle-même visée par une plainte pour agression sexuelle. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
A-t-on des nouvelles de la CIVIS, ou du moins une feuille de route, Rémi?
Eh bien, pour l'instant, la CIVIS est en rade. C'est le mot choisi par l'un de ses membres dans un message publié il y a 2 jours sur les réseaux sociaux. Il dénonce l'inertie du gouvernement. Les 37 membres bénévoles comme lui de cette commission ont suspendu leurs travaux. Ces experts, avocats, membres d'associations de protection de l'enfance n'ont plus de président pour les guider, plus de feuille de route. Alors, ils ont tous été reçus par la nouvelle ministre déléguée en charge de l'enfance, Sarah El Haïry, mais c'était il y a un mois déjà. Elle leur propose alors de poursuivre leur réunion en attendant le ou la nouvelle présidente. Eux préfèrent les suspendre. Ils écrivent alors aux 3 ministres dont ils dépendent, celle chargée de l'enfance donc, mais aussi le ministre de la Justice et la ministre de la Santé. Une source nous indique que les 3 se sont mis d'accord en réunion il y a quelques jours sur la feuille de route, notamment. L'entourage du Premier ministre nous promet ce soir qu'une nouvelle présidence sera choisie prochainement. Pas plus de précisions sur la date après 1 mois et demi de flottement.
Rémi Brancato. Et puis ils sont arrivés à Clairefontaine cet après-midi, les joueurs de l'équipe de France de football. Rassemblement en vue de 2 matchs amicaux, samedi face à l'Allemagne, mardi contre le Chili, le tout à 3 mois de l'Euro. 2 rencontres qui se feront peut-être sans Antoine Griezmann, gêné à la cheville. Didier Deschamps l'a confirmé aujourd'hui. Ce serait dommage pour l'attaquant de l'Atlético Madrid qui est sur une série record. Il a joué tout ou partie, tenez-vous bien, des 84 derniers matchs des Bleus, sans exception.
Mais vous aussi, vous avez joué dans plus de 84, 18, 20, Kevin Dufraîche.
Absolument,
et pour la peine, voilà.